CH. Entretien avec Edgar Morin, Ilia Prigogine, Neil Gershenfeld, Daniel Mange, Jean-Louis de Neubourg, Christopher Langton, Francesco Varela. La complexité, vertige et promesse, un livre de Reda Benkiran. La pensée du complexe, donc, aujourd'hui, avec Reda Benkiran, sociologue, spécialiste de l'information, éditeur web, qui a publié récemment aux éditions du Pommier un livre d'entretien avec de grands théoriciens de la complexité. De l'émergence au chaos, de l'autopoïèse au système biologique, la complexité est une incertitude pluridisciplinaire. Reda Benkiran.
La raison d'être d'étudier la complexité, c'est cette volonté d'articuler des savoirs spécialisés. Nous avons poursuivi ces trois derniers siècles une hyperspécialisation des savoirs. Et maintenant, peut-être le temps est venu de remembrer les différentes disciplines autour de problèmes qui, de toute façon, dépassent amplement la validité de chaque discipline. Donc la complexité, moi je vois ça comme une sorte d'arborescence, c'est l'arbre de la science, c'est l'arbre de la connaissance, ça se nourrit de diverses disciplines, divers courants philosophiques, c'est cet aspect d'intrication, d'enchevêtrement, le mot complexité vient de complexus et il y a l'idée, cette idée d'enchevêtrement, de choses tissées.
De fait, notre monde est complexe depuis toujours. On s'en rendait peut-être pas compte ou on n'avait pas besoin de ça parce que peut-être on avait des religions ou des mythes qui nous suffisaient. Et plus tard, le propre de la première pensée scientifique, c'était plutôt de simplifier le monde qui nous entoure. Ça date de quand, le moment où on s'est dit vraiment maintenant, il faut essayer de penser les choses plus complexes, c'est-à-dire les choses qui bougent, les choses qui sont en évolution, qui ont une histoire, qui ne font pas appel qu'à des connaissances du particulier.
La complexité, c'est vrai que c'est un thème qui est étudié maintenant au niveau scientifique depuis à peu près un demi-siècle, mais quand même, au XIXe siècle, on a commencé à découvrir un certain nombre d'aspects de la nature qui est lié à la complexité. La science classique s'intéresse à une description aussi simple que possible de la nature. Elle a établi des lois de la nature et l'idée c'est de trouver les régularités, les aspects de répétition, d'uniformité de la nature. Et on a décrit ça autour d'équations les plus simples possibles pour expliquer cette uniformité, cette répétition, cette invariance, les symétries qu'on peut retrouver qui peuvent expliquer un peu la nature. Mais on trouve aussi dans la nature beaucoup de choses qui ne sont pas simplement une répétition, une uniformité. On trouve de l'irrégulier, on trouve du rugueux, du brisé, des brisures de symétrie, des singularités. Et toute l'histoire de la science au cours des 19e siècle a été de découvrir progressivement un certain nombre d'objets de moins en moins simples à décrire. La science newtonienne, elle est basée sur un modèle déterministe, c'est-à-dire qu'on calcule l'état d'un système à partir d'une connaissance de sa position, de sa vitesse, et si on connaît l'état initial du système, on peut prédire son passé ou son futur. C'est vraiment le système parfaitement déterministe. Au XIXe siècle, on a commencé à découvrir que finalement ce calcul intégral pouvait permettre de calculer des interactions, par exemple de deux corps et l'attraction gravitationnelle qu'ils exercent entre eux, mais que très rapidement, en présence de trois corps, le problème devient extrêmement compliqué à résoudre. Et petit à petit est née cette découverte de phénomènes dits chaotiques à la fin du XIXe siècle. C'est déjà Poincaré qui découvre ce premier système chaotique. Il n'avait pas les moyens de le démontrer d'une manière scientifique parce que les calculs ne pouvaient pas être poursuivis à l'aide du papier et du crayon. Disons que la complexité est apparue avec l'invention de l'ordinateur, la naissance de l'informatique. Petit à petit, l'ordinateur est devenu le télescope, microscope de la complexité et on peut mener des calculs et éprouver l'imprévisibilité, la nature profondément non linéaire et non prédictible de certains systèmes physiques.
Cette complexité, il y a quand même des domaines de prédilection dans lesquels on a commencé à la rechercher, où on a éprouvé le besoin d'en rendre compte. C'est entre autres dans le domaine du vivant, bien sûr, parce qu'on s'est rendu compte assez vite que le corps-machine, c'était insuffisant. C'est dans le domaine de tout ce qui est cérébral, l'intelligence, la sensibilité, enfin tout ce qui relève du cerveau. C'est aussi pour ce qui est très grand, comme l'univers, ou très petit, comme les interactions entre particules. Donc, cette complexité, elle s'étend finalement à toutes sortes de domaines.
C'est-à-dire que, au fur et à mesure qu'on s'est rendu compte que les éléments de la nature ne sont pas si simples que cela, finalement, on s'est rendu compte que l'essentiel des systèmes sont des systèmes chaotiques, c'est pas des systèmes simples, intégrables et dont on peut résoudre l'évolution de manière simple. La complexité, on la retrouve chez l'humain, dans la société, tout d'abord. On la retrouve au niveau de l'intelligence. L'objet le plus complexe qui existe au sein de l'univers, c'est le cerveau humain. Avec ces nombres de neurones, à peu près 200 milliards, autant de neurones qu'il y a d'étoiles dans la Voie lactée. Chaque neurone a 10 000 connexions, décharge des millions de fois par seconde, et on ne connaît pas encore les lois de la physique du monde mental. On retrouve le problème de complexité aussi dans les questions de calcul. Très vite, avec la naissance de l'informatique, on va découvrir qu'il y a des problèmes qui sont incalculables. L'idée de complexité montre qu'il y a aussi des limites à la science, à ce que la science peut prédire de manière certaine. Ce n'est pas forcément un résultat négatif, c'est aussi le gain d'une connaissance, savoir que nous avons des limites aux prédictions, aux choses que l'on peut calculer. C'est un gain de connaissance parce que ça permet, paradoxalement, d'agir ou d'interagir avec la nature et avec notre environnement.
Puis justement, le fait qu'on ne peut pas toujours prédire incite peut-être à expliquer. Je pense là, par exemple, à l'aspect de la météorologie, c'est ce qu'on cite toujours. Hein. Tant qu'on n'a pas vraiment compris tous les tenants et les aboutissants du système, il est extrêmement difficile de prédire le temps, par exemple.
Oui, vous avez cité l'exemple de la météorologie. C'est un cas de système parfaitement complexe et imprévisible. Je vous parlais tout à l'heure de la découverte, déjà par le mathématicien français Poincaré, de la nature chaotique de certains systèmes déterministes. Il se trouve que c'est dans la météorologie que l'on a redécouvert Poincaré. C'est un météorologiste Edward Lorenz, début des années 60, qui simulait au moyen de l'ordinateur, donc l'outil informatique était déjà là, un modèle météorologique. Et il a interrompu son calcul. Et en revenant, il a décidé de reprendre les résultats. Il s'est rendu compte que, à partir des mêmes conditions pratiquement, il obtenait des conditions finales radicalement différentes. Et il a revu un peu ses calculs. Il s'est rendu compte que quand il a repris ses conditions initiales, il avait oublié les trois dernières décimales d'un chiffre à six décimales. Et cet oubli des trois dernières décimales a suffi à ce que les conditions finales soient totalement divergentes. Donc là, il était le premier à découvrir ce qu'on appelle la sensibilité aux conditions initiales. Il a fait paraître un article dans un journal spécialisé et ça n'est pas resté longtemps ignoré et ce n'est qu'au début des années 70 qu'on a redécouvert un petit peu cette étude donc découverte en météorologie et on l'a appliquée à toutes sortes de systèmes physiques et puis ensuite les mathématiques ont fourni l'ossature pour bien comprendre cette dynamique particulière.
Vous avez fait mention de l'ordinateur et d'Aben Kiran qui joue un rôle important dans cette pensée du complexe à deux titres, me semble-t-il. D'abord parce qu'il y a tout le mouvement cybernétique qui cherche en quelque sorte à s'inspirer du vivant pour créer des machines efficaces. Et puis de l'autre côté, quand les machines ont été plus performantes, on a pu les utiliser pour simuler alors les phénomènes du vivant, de la nature, tous les phénomènes complexes et par là même essayer de mieux les comprendre. C'est important cette percée de l'informatique, enfin c'est, disons après les années 50, mais c'est aussi un piège parce que l'informatique, en tout cas de base, est beaucoup trop simple, elle n'est pas complexe précisément.
C'est vrai, l'informatique maintenant, nous vivons une révolution informatique, la révolution de l'information, et je dirais qu'elle est comparable dans sa magnitude à l'invention de l'imprimerie ou à l'invention de l'écriture. L'informatique a vu le jour de manière théorique dans les années 30 et 40. Dans les années 40, aux États-Unis, il y a eu tout un bouillonnement intellectuel autour de ce qu'on a appelé la théorie de l'information. On découvre aussi la cybernétique, qui est une théorie basée sur la communication et la commande et le contrôle des organismes vivants et des machines. Ça a constitué une sorte de creuset multidisciplinaire d'où vont voir le jour les sciences cognitives, donc les sciences de l'esprit, l'intelligence artificielle. Et très rapidement, le modèle informatique a été perçu comme vraiment la panacée pour comprendre l'intelligence. On a voulu simuler l'intelligence au moyen de machines. Et c'est vrai que maintenant, un demi-siècle après, on voit que bon, on a développé des systèmes très intelligents. Par exemple, on a assimilé l'intelligence à la capacité de jouer aux jeux d'échecs. Donc, de ce point de vue-là, les machines ont fait de grands progrès, hein. Des grands joueurs se disputent avec des ordinateurs. Mais est-ce que c'est ça l'intelligence? Est-ce que l'intelligence humaine peut être imitée de manière informatique? Ça a lancé toutes sortes de débats. Et c'est vrai que l'informatique maintenant est en train de prendre un nouveau tournant en essayant de s'inspirer plus des notions du vivant que des notions de programmation, de calcul, de computation. On revient plus vers une convergence de l'informatique et de la biologie.
Mais ce qui était effectivement intéressant pour les chercheurs au début de l'informatique, c'est que pour la première fois, on pouvait simuler absolument n'importe quoi puisqu'on travaillait sur des symboles. Donc ces symboles, ces signaux, ces bits pouvaient représenter tout ce qu'on voulait dans le monde, aussi bien une petite créature vivante qu'un neurone, qu'un atome. Mais aussi, on s'est vite rendu compte que les symboles, c'était pas la vie, qu'il y a toute une incarnation et du corps et de l'intelligence qui fait qu'on évolue, qu'on peut agir sur son environnement, qu'on apprend, le phénomène d'apprentissage aussi, dont une machine a priori n'est pas capable. Donc c'est dans cette direction-là, dans ce côté plus incarné de l'informatique, qu'on cherche des solutions maintenant de machines qui seraient capables d'apprendre, par exemple, capables de se réparer elles-mêmes, comme notre corps.
Oui, la métaphore biologique est de plus en plus puissante. Je dirais qu'un objet complexe, c'est un élément avec un grand nombre de composants qui sont en forte interaction. Et il y a, disons, trois aspects assez importants. Il y a le premier qui est le principe d'émergence, c'est-à-dire l'idée que le tout est plus que la somme des parties, c'est-à-dire que le tout, l'ensemble du système, a des propriétés qu'on ne peut pas trouver au niveau des composantes. Les propriétés de l'ensemble ne correspondent pas à l'addition des propriétés des divers composants. Donc cet aspect d'émergence suggère aussi une transition d'un niveau à un autre. Et ça, on retrouve beaucoup dans les modèles de biologie, une cellule, un organisme, c'est un phénomène d'émergence. On ne sait pas fabriquer un organisme vivant, on sait le décortiquer, on sait le disséquer, on sait le découper, mais on ne sait pas encore synthétiser la vie. Ça, c'est un exemple que les propriétés d'ensemble que peut représenter un organisme vivant ne sont pas réductibles à une analyse.
L'exemple qu'on cite, c'est celui du gène. Un gène en lui-même, c'est pas grand-chose. C'est quand il se réalise, quand il interagit avec d'autres gènes, quand il est présent dans une cellule et dans un corps réel, que vraiment il se manifeste.
Oui, effectivement, l'idée d'assimiler, par exemple, le gène à un caractère est une simplification que certains scientifiques considèrent même comme grossière. Le gène fait partie d'un réseau et c'est le réseau de gènes qui exprime une dynamique particulière. C'est un système complexe par excellence et pour l'heure, le génome, on en est à l'âge du baptême, c'est-à-dire qu'on découvre des gènes et on leur trouve un nom. Mais il reste à comprendre les principes comportementaux du génome. Et ça, il va falloir utiliser des principes de la complexité. Je voulais revenir, donc il y avait trois aspects dans la définition de système complexe. Donc l'aspect de l'émergence, l'aspect aussi de non-linéarité, donc le fait que des petites causes peuvent avoir de grands effets. C'est quelque chose qui fait que un système en interaction forte, on ne peut pas prévoir son comportement d'ensemble de manière statistique. La loi des grands nombres, qui consiste à proposer un comportement moyen d'un ensemble composé d'un grand nombre d'éléments, ne joue pas parce qu'il y a des interactions non linéaires qui peuvent déclencher des phénomènes tout à fait inattendus. Troisième aspect, c'est l'aspect d'évolution. Donc, nous sommes là dans une science qui n'est plus tellement une science de l'être, mais une science du devenir, de la transformation. Alors nous avons la théorie de l'évolution qui a été proposée par Darwin. Cette vision est un peu encore simpliste et la théorie de la complexité cherche maintenant à prendre cette notion d'évolution et à l'enrichir, c'est-à-dire non seulement le hasard et la sélection, mais le processus d'auto-organisation qu'on retrouve dans toutes sortes de phénomènes biologiques.
Oui, parce que la difficulté des théories de l'évolution, c'est que on peut bien expliquer les petites variations, mais c'est difficile d'expliquer les réels progrès, les grands sauts qualitatifs dans l'évolution par simplement sélection du plus apte.
Exactement. Par exemple, les extinctions massives au cours de l'évolution ne sont pas encore explicables. Et justement, la théorie de la complexité, en modélisant de manière informatique, en simulant, en introduisant des données. On parle de paysage évolutif, adaptatif. On essaye de simuler des organismes et on essaye de comprendre pourquoi il y a des extinctions massives, comment cela peut arriver. Et clairement, le hasard qui est invoqué trop souvent est quelque chose qui relève un petit peu d'une variable cachée. Ça traduit aussi beaucoup d'ignorance, c'est-à-dire qu'on associe au hasard des choses qu'on ignore, mais il reste à trouver la grammaire de l'évolution. Et je pense que personnellement, les phénomènes d'auto-organisation tendent à prouver que, au cours des milliards d'années d'évolution, tout n'est pas possible. Toute forme, tout organisme ne peut pas développer. Il y a des contraintes physiques, il y a des contraintes physiologiques qui imposent que certaines formes peuvent voir le jour, évoluer, se transformer, d'autres ne peuvent pas exister. Et ces contraintes s'expliquent par des phénomènes justement d'auto-organisation.
La complexité, vertige et promesses, un livre de Reda Benkiran aux éditions du Pommier.
J'aimerais quand même qu'on parle alors de façon positive du hasard, parce que c'est une chose dont vous parlez aussi dans votre livre avec certains de vos intervenants. Le hasard, c'est aussi quelque chose qu'on étudie maintenant dans le cadre des théories de la complexité, Reda Benkiran.
Je pense beaucoup aux travaux d'Ilya Prigogine qui a montré qu'en fait que le hasard n'est pas quelque chose qu'on doit assimiler à notre ignorance, mais qui signale une probabilité de possible et qu'il y a des points de bifurcation. Et donc la vie, l'évolution est une suite de bifurcations possibles. Et cette idée qu'au cours de l'évolution nous avons des potentialités d'évolution radicalement différentes selon qu'on prenne une trajectoire ou une autre, est un message éminemment positif. Auparavant, avec la science classique, oui, c'était un résultat angoissant, mais l'on voit tous les jours autour de nous que, justement, la notion de hasard est extrêmement positive. Il faut savoir aussi que le mot hasard a une étymologie arabe. Dans l'étymologie arabe, si vous prenez le verbe zahara, donc hasard, à l'origine, ça désignait un jeu de dés qu'on pratiquait dans l'Espagne andalouse, donc au Moyen-Âge. Et toute la racine du mot Zahara signifie des choses comme fleurir, prospérer, épanoui, riche, beauté. Donc dans l'étymologie, il y a quelque chose de très positif, de profusion, de protubérance, d'efflorescence. Ce qui est très intéressant de voir, c'est que maintenant les sciences, disons, actuelles, mettent en avant cet aspect profondément positif et créateur du hasard.
Et puis pour notre vie de tous les jours, c'est plutôt bien aussi, parce que le déterminisme, finalement, c'est pas très rigolo. Et dans l'époque où on vit, se dire qu'il y a encore des marges de liberté et des chemins de hasard, c'est plutôt agréable, non?
Effectivement. La complexité, c'est souvent assimilé à un passage entre un régime ordonné et un régime chaotique. Et la complexité, c'est un seuil, il faut que ça ne soit pas trop désordonné. Trop de désordre, c'est le bruit, c'est la dissonance. Et trop d'ordre, c'est la mort. C'est très étonnant de voir, par exemple, l'étude du chaos dans le cerveau. On a pris des encéphalogrammes du cerveau lors de différentes phases. Et on se rend compte que quand on prend, par exemple, l'électroencéphalogramme de quelqu'un qui est en proie à une crise d'épilepsie, la courbe décrit quelque chose de parfaitement ordonné. Et donc, la complexité, c'est d'être au seuil entre un passage, un saut qualitatif entre ordre et désordre. Il y a de ça, je crois, aussi dans la vie de tous les jours.
Donc ça, c'est un des sous-titres, disons, de votre livre, la complexité, vertige et promesse. Donc il y a aussi une promesse. Mais comment vous expliquez, Reda Benkiran, si vous avez une explication, je ne sais pas, que malgré toutes ces recherches et tout ce qu'on raconte depuis peut-être 50 ans autour de la complexité, on a toujours cette tendance, et plus que jamais, à ce qu'on appelle la pensée unique, mais ça peut être aussi la pensée simplement binaire ou linéaire, ou la logique élémentaire vraiment basique qui est inutile dans la complexité du monde où on vit.
C'est vrai que nous vivons une époque formidable à plein de titres. Sur le plan du savoir, nous vivons une époque privilégiée. Le meilleur exemple de complexité, de système complexe, c'est Internet. Qui aurait dit il y a une dizaine d'années que nous aurions cet outil formidable et que nous avons maintenant la connaissance, le savoir à portée de soi, et le renouvellement des idées en science actuellement sous l'ample thématique de la complexité témoigne de ce foisonnement, de cette créativité. Malheureusement aussi, dans le monde réel, nous vivons une époque où les intégrismes de tous bords fleurissent, où les pensées uniques de gauche, de droite, du nord, du sud, de l'Orient, de l'Occident s'exacerbe, et c'est vrai que peut-être ce détour par la science peut nous aider à, disons, à comprendre la créativité de l'époque que nous vivons et essayer de nous ressourcer à travers les nouvelles idées scientifiques. Ce que je veux dire par là, c'est que de tout temps, la science a diffusé ses principes, ses paradigmes aux sciences humaines et à la société. Il y a eu un échange entre les deux. Et c'est vrai que dans le même temps, nous avons ce phénomène où la complexité, nous voyons que le monde est de plus en plus complexe. Il y a un siècle, les gens vivaient selon des lignes de vie très traditionnelles. Le père faisait ce que son père faisait, etc. Maintenant, nous sommes dans une époque où les gens se déplacent, voyagent, sont extrêmement mobiles, changent de métier. Notre économie se complexifie. Il reste à adapter, disons, une pensée pour pouvoir vivre et évoluer dans ce monde. Je pense particulièrement aux décideurs économiques, aux politiques aussi, qui peut-être devraient cesser d'appliquer les anciens préceptes de la science du contrôle et de la manipulation, déterministe, etc., pour paradoxalement opérer une sorte de lâcher prise et recourir à d'autres perceptions du monde plus en phase avec la réalité de la science.
Un espoir, donc.
Oui, il y a un espoir et il y a aussi un danger parce que nous avons atteint aussi un développement technologique et scientifique qui nous permet aussi de nous détruire. L'humanité est devenue une force géophysique. Il y a des problèmes de limites là aussi, limites écologiques qui fait que maintenant nous pourrions être à l'origine d'une extinction massive au sein de la biosphère. Et donc, ce que j'aime beaucoup dans les idées de la complexité, c'est que c'est une science participative du monde qu'elle observe. Et peut-être qu'avec toute la batterie d'outils qu'elle propose, la constellation de disciplines, de spécialités qui sont regroupées autour de cette thématique de la complexité, peut-être que nous pourrions essayer d'éviter justement ce danger majeur de détruire notre environnement planétaire.
Il y a un autre danger qui est moins grave, qui est plus, disons, intellectuel, qui existe même chez les chercheurs de la complexité, c'est que il y a un refuge parfois dans le mysticisme aussi. Alors là, c'est justement parce qu'on constate que tout est tellement complexe qu'en fait, il faut passer sur un autre plan.
Toutes ces questions, c'est vrai, passionnaient peut-être auparavant les philosophes, mais maintenant les scientifiques les attaquent directement. Je dirais que un peu de science éloigne des aspects philosophiques, beaucoup de science y ramène. Et c'est la même chose pour la philosophie, c'est-à-dire qu'un peu de philosophie nous éloigne de la science, mais beaucoup de philosophie nous ramène à la science. Maintenant, la science s'attaque à des sujets qui étaient du domaine auparavant de la métaphysique ou de la théologie, mais cela est fait avec rigueur et ça n'a rien à voir avec des confusions du genre Nouvel Âge.
Donc il faut être pluridisciplinaire, mais pas mélanger les choses, c'est ça?
Il faut être pluridisciplinaire, mais faire cela avec discipline.
On rencontrait aujourd'hui Reda Benkiran, auteur d'un livre d'entretien avec des théoriciens du complexe aux éditions du Pommier, La complexité, vertige et promesse. Vous voulez en savoir plus? Alors branchez-vous sur notre site internet espace2.ch à la page de ce jour ou bien consultez le site de Reda Benkiran, archipresse.org. Science.ch, un projet SSRID Suisse, une émission d'Anne-Marie Rins, c'est tous les vendredis à 11h. La semaine prochaine, pour le Vendredi Saint, je recevrai Jean-Bernard Livio, père jésuite, pour évoquer l'archéologie de Jérusalem.